Radio Bulle, Radio Bulle, rythme la jeunesse.
On est de retour avec vous juste après le top de la musique sur Radio Bulle 93.6. Les Midis de l'Emploi, c'est avec Jean-Luc Thomas, une émission placée sous le signe de l'emploi et de l'entrepreneuriat au féminin, Jean-Luc.
Et oui, cette pause méridienne autour de l'emploi féminin.
Ça y est, t'es passé à midi dans ta tête.
Ouais, bah oui,
ça fait du bien.
Force, il faut quand même que j'y arrive. Et donc, pour ce troisième plateau, j'ai le plaisir de recevoir donc Stéphane Jacquot, responsable du pôle développement à la Chambre de commerce. Du Lot-et-Garonne.
Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Et également Anne-Sophie Fraissinet, donc qui est gérante de la société La Maison de la Noisette, qui est située à la Cépède.
Bonjour.
Bonjour Anne-Sophie.
Alors c'est une première a priori pour Anne-Sophie, mais vous allez voir, ça va bien se passer.
En plus, vous êtes sur la meilleure radio de Lot-et-Garonne. Je dis jamais ça, je le fais jamais, mais là c'est pour vous mettre à l'aise parce que je vois que vous n'êtes pas... Donc tout va très bien se passer.
Alors d'abord, on va donner la parole à Stéphane qui va nous raconter un petit peu c'est quoi le rôle d'un responsable de pôle développement quand on travaille à la Chambre de commerce.
Alors quand on travaille à la Chambre de commerce, effectivement, le pôle développement, c'est un service qui accompagne toutes les personnes qui ont une idée de création d'entreprise. C'est un programme qui est entièrement subventionné, je préfère le dire à chaque fois, par la région Nouvelle-Aquitaine et par l'Europe. Et c'est important de dire que l'Europe, parce que souvent on tape un peu sur l'Europe, mais intervient sur le programme et finance une grosse partie du programme. Donc les porteuses et les porteurs de projets qu'on reçoit ne payent rien, le programme est intégralement subventionné.
Donc ça, c'est un appel à candidature si vous êtes dans le Lot-et-Garonne, si vous avez des idées et que vous savez pas trop complètement comment le structurer, et ben vous pouvez aller chercher des conseils pertinents auprès de la Chambre de commerce, c'est ça?
Et c'est tout à fait ça. Puisque le programme, alors il y a un programme type qui est un programme d'accompagnement classique où on va faire une présentation du porteur de projet, on va rédiger une étude de marché, une étude prévisionnelle sur 3 ans, on fait de la recherche de financement. Mais le thème aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat au féminin. Et donc, on adapte le parcours d'accompagnement quand on est face à une porteuse de projet. Alors, sous deux angles. Nous, au niveau de la CCI, être accompagné, déjà, c'est très, très bien. Les gens viennent être accompagnés sur la création d'entreprise, c'est très bien. Mais la mise en réseau, c'est quelque chose d'extrêmement important.
Et, on va en parler juste après.
Et bien, c'est pour ça que je me suis tourné.
Merci pour la transition.
Parce que, à chaque fois que j'ai une porteuse de projet, on explique que l'accompagnement, c'est bien, le financement, c'est bien, mais la mise en réseau, c'est absolument essentiel et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup aussi avec Magali. Et je te remercie.
Magali Naï qu'on aura dans un instant à l'antenne.
Exactement. Et il y a une deuxième adaptation qui pourrait peut-être vous choquer parce que on va, quand on est face à une porteuse de projet, analyser sa situation personnelle en profondeur, surtout quand on va rechercher un financement. Parce que ça m'est arrivé il y a 2 ans, c'est un cas totalement concret, hein, où j'étais face à une porteuse de projet assez jeune et une mère célibataire, où on avait besoin d'un financement bancaire. Donc on a fait tout le dossier sur un projet de création d'entreprise qui était réaliste, qui tenait la route, et on s'est retrouvé face à des refus de financement bancaire. Et j'ai fini par avoir la vraie raison. Et la vraie raison qu'on m'a évoquée, c'est de dire, ben oui, mais le problème, c'est qu'elle est mère célibataire. Donc si le petit, il est malade, le mardi, il va falloir aller le chercher. Donc ça pénalise l'activité de l'entreprise. Donc ouais, la rentabilité ne sera pas la même. Donc je ne finance pas.
Waouh, il y a du boulot là.
Je vous avais dit que ça pouvait choquer. Et donc aujourd'hui, on adapte les dossiers. Donc on est obligé de rentrer un petit peu dans l'intimité de la personne. J'explique pourquoi. Et si c'est le cas de la personne, eh bien, en fait, on modifie la rédaction du dossier et on prépare le plan B avant que la question arrive. C'est de dire, voilà, cette personne est mère célibataire, mais s'il y a un problème, je ne sais pas, il y a mamie, il y a tata qui peut venir intervenir. Et ça rassure, en fait, le financeur. Et on est obligé de partir sur des choses comme ça. Parce que avoir des financements bancaires aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué, hein, plus compliqué qu'il y a quelques années. Donc il faut s'adapter, il faut anticiper en permanence et avoir des dossiers de plus en plus solides.
Donc tu veux dire que ça a toujours été difficile de créer une entreprise, ça, je peux en témoigner aussi, je l'ai fait, mais tu dis que quand c'est en plus une porteuse de projet plutôt qu'un porteur de projet, parfois c'est encore plus compliqué.
Parfois c'est plus compliqué.
Si elle a un enfant à charge, qu'elle est célibataire. Mais alors ça, c'est important aussi de préciser qu'effectivement, ben, on recadre un petit peu la façon dont on va présenter présenter les dossiers et ça va éviter aussi certaines cagnottes ululent qui pullulent un peu partout en ce moment parce qu'effectivement, on a des porteuses de projets qui ne sont pas accompagnées par les banques et qui ne connaissent pas ce type d'accompagnement.
Oui, alors j'ai un cas très concret, si vous me permettez, sur oui. effectivement une cagnotte. Puisqu'il y a, il y a un projet sur Agen qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques mois et qui est le projet de Paola et le bar à chat.
Miaou, ouais.
Que Pao.
Ouais, non, mais moi je dis miaou parce que ça me fait rire. Quoi,
c'est
tout. Mais effectivement, ouais,
et c'est moi qui ai accompagné Paola. Ouais. On n'a eu aucun financement bancaire.
Ouais.
On n'a eu aucun financement bancaire. Alors, le motif étant que l'activité n'était pas connue. D'accord. Alors, au niveau de la CCI, on est intervenu, on a réussi à lui faire décrocher un prêt social, mais il y a eu une cagnotte importante qui a très bien fonctionné.
Oh, bah
elle a tout donné, hein, Paola. Clairement, j'appelle ça l'entrepreneuse guerrière, en fait. Mmh. Elle n'a rien lâché parce que ça a été très, très, très compliqué.
Ouais.
Parce que elle est jeune, parce que il y avait tout un tas d'arguments.
Et ça marche en plus.
Et pourtant, aujourd'hui, elle fait un carton. Le jour de l'ouverture, on a 200 personnes qui se présentent et on peut en recevoir 40 maximum. Quoi. Donc, oui, ça marche très bien.
Et puis, ça raconte aussi le manque de recul des banques aussi. Sur, alors, effectivement, ils ont peur. Mais alors, comment aujourd'hui on peut pallier à ça? Parce qu'on sait, par exemple, parce que là, c'est le centre-ville d'Agen, qui est quand même qui est de moins en moins dynamique. Il y a beaucoup de fermetures d'établissements, etc. Et les banques ont aussi un rôle à ce niveau-là de pouvoir redonner un élan. Là, en l'espèce, si elle n'avait pas eu la cagnotte, Paola, son établissement n'aurait jamais ouvert. Et maintenant, on voit que c'est aussi un petit pôle, un pôle d'attractivité à son niveau sur la rue Molinier, mais aussi de sociabilité. Tout ça, comment on peut le travailler?
Alors, ce que vous dites est important. Le rôle des banques, il est majeur. Parce qu'aujourd'hui, 95% des dossiers qu'on accompagne, on va chercher un financement bancaire. C'est absolument majeur. Et pour qu'aujourd'hui les banques accompagnent, il y a des critères aussi. Il y a des critères financiers, d'apport personnel, qui sont souvent un frein aussi.
Tous les jeunes n'ont pas d'apport, on va arrêter de se mentir là maintenant.
On est bien d'accord.
À moins d'avoir un héritage ou je ne sais pas, quand j'entends il faut avoir 5000 euros d'apport, tous les jeunes ne sont pas accompagnés comme ça aujourd'hui.
Alors concrètement, il faut avoir 15%. 15% d'apport sur le projet. Donc sur des petits projets, ce n'est pas très grave, mais quand on a des projets à 100 000, 200 000, et qu'on a 25 ans, comme j'accompagne des personnes et des porteuses de projet d'ailleurs. Et j'en profite pour dire que les personnes qu'on accompagne sont de plus en plus jeunes. Mmh. Et ça, c'est intéressant aussi.
C'est
déjà,
vrai.
C'est une personne, un porteur de projet sur deux qui pousse la porte, c'est une femme. Mmh. Et ces femmes sont de plus en plus jeunes. Et celles qu'on est en train d'accompagner actuellement sur Agen ont moins de 30 ans. Mmh.
Elles ont envie de faire quelque chose
elles sont à fond.
Et elles sont freinées.
Envie. Et il peut y avoir le frein bancaire par la jeunesse, par l'inexpérience, par tout ça. Donc, pour répondre à votre question de tout à l'heure, il faut un dossier en béton, en fait, il faut être bien accompagné. Tout est dans l'accompagnement. Alors, la CCI, bien entendu, on le fait. Je suis là pour en parler.
Il y a
d'autres organismes qui le font. Je pense à Entreprendre en Nouvelle-Aquitaine, qui est un groupement dont on fait partie, avec un programme d'accompagnement qui est solide, avec un gros taux de réussite à la sortie en termes de financement. Et du suivi, c'est extrêmement important aussi. On est les seuls à faire du suivi 3 ans après la création et également pris en charge intégralement par des financements publics. Le suivi, d'abord, l'accompagnement, c'est important, le suivi encore plus.
On va retenir quand même que ce matin, tous vos témoignages convergent là-dessus, c'est que non seulement il y a un travail à faire au niveau de l'emploi et de l'entrepreneuriat au féminin, mais il y a aussi beaucoup de prérequis à mettre en place. Besoin d'accompagnement, de casser des stéréotypes, de casser des idées préconçues sur un certain nombre de choses. Et je pense que ce matin, moi, je retiens beaucoup ça de vos témoignages sur dire, attention, ça, c'était l'image qu'on en avait. Aujourd'hui, on peut apporter des solutions. On a des réponses. On a des réponses par rapport à l'attractivité des métiers. On a des réponses par rapport à la façon dont on va monter un projet. Moi, sur un domaine comme l'intérim, et j'en parle souvent, on a aussi des partenaires avec le Fast ET, par exemple, qui sont là pour accompagner. Tu parlais des difficultés pour une femme mère célibataire. Eh ben, le Fast ET apporte aussi pour des gens qui veulent travailler en intérim.
Tu rappelles ce que c'est ?
Le Fonds d'action sociale du travail temporaire, pardon. Et donc, par rapport à ça, peut amener des crèches, peut amener des accompagnements pour justement lever des freins à l'emploi. Alors, l'emploi au sens large, toi, tu es plus dans l'entrepreneuriat, mais je pense qu'on est un peu dans la même dynamique. Et quand on a préparé cette émission et que on disait « je voudrais bien un témoignage féminin autour de ça », tu m'as dit « pas de problème, j'ai la personne qu'il te faut. Et donc, je vais contacter Anne-Sophie Fraissinet. Anne-Sophie, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, de votre parcours, qui vous êtes, et puis nous parler un petit peu de la maison de la noisette.
Il vous lance dans le grand bain, là, comme ça, d'un coup. Hein.
Tout à fait, merci. Du coup, moi, je viens de Villeneuve-sur-Lot, à la base. J'ai fait des études de commerce, j'ai travaillé pendant 10-15 ans dans le retail alimentaire. Et après une expérience dans une entreprise familiale qui a périclité, je me suis dit, allez, je me lance, pourquoi pas moi ? Et effectivement, là, je me suis fait accompagner. Donc, je me suis fait accompagner par la CCI, je me suis fait accompagner par le réseau Entreprendre. J'ai pris beaucoup de contacts avec mes anciens partenaires commerciaux pour échanger avec eux sur l'entrepreneuriat. J'ai même fait un bilan de compétences pour m'assurer moi-même, avant les autres, je pense, que j'étais bien à même de pouvoir reprendre une entreprise.
Lever le syndrome de l'imposteur.
Par exemple.
Par exemple.
Et j'ai réussi à faire un retour aux sources, à revenir dans le Lot-et-Garonne pour reprendre la Maison de la Noisette, donc, qui est une entreprise qui transforme la noisette du Lot-et-Garonne et la noisette française en tout un tas.
Avant de nous parler de la Maison de la Noisette, le projet, entre le moment où l'idée vous est venue et le moment où finalement ça s'est concrétisé, comme ça, c'est un délai de combien de temps ?
Alors, le moment où j'ai quitté ma précédente entreprise et je me suis dit « allez, je me lance », et le moment où j'ai vraiment repris l'entreprise, il s'est passé une petite année et demie, ce qui est grosso modo le timing, on va dire, pour reprendre une entreprise. Sachant que la première entreprise avec laquelle j'ai échangé, c'était celle que j'ai repris, mais que comme dans toute reprise d'entreprise, il y a des hauts, des bas, des gauches, des droites, et que finalement, c'est un parcours, pas forcément du combattant, mais c'est un parcours assez long et semé d'embûches qu'il faut lever au fur et à mesure.
Donc c'est quand même un parcours long, de longue haleine.
Oui.
On est dans la moyenne à peu près ?
Alors sur une reprise, on est sur une moyenne d'1 an et 1 an et demi. C'est ce qu'il faut, avec plein d'embûches, plein de négociations, plein de choses. Mais ça fait partie du jeu. Quoi.
Première qualité, la ténacité. Quoi, donc.
Il vaut mieux.
Ça pose quand même, ces témoignages, la question de la liberté d'entreprendre en France. Est-ce qu'elle n'est pas un peu contrainte aujourd'hui ? Parce que je trouve que c'est quand même... Bon, Anne-Sophie dit que ce n'était pas le parcours du combattant non plus, mais ça y ressemble un petit peu quand même. Non, n'est-ce pas ?
Qu'est-ce que vous en tirez de ces 1 an et demi ?
En fait, je pense qu'en France, on est très bien accompagné et en même temps, il y a tellement d'intervenants et d'interlocuteurs qui peuvent accompagner, qui sont parties prenantes, qu'en fait, on est perdu. Et que finalement, moi, je me suis sentie très accompagnée et en même temps très seule à devoir aller chercher des informations par moi-même pour tout regrouper finalement.
Ouais. Stéphane Jacot, votre vision là-dessus ?
Alors c'est exactement ça. Il y a tout un tas d'organismes dont on fait partie qui accompagnent. On a un problème de porte d'entrée aujourd'hui très clairement et d'identification. Ouais. Et pourtant on bosse. Hein. Nous aussi, on va dans les collèges, dans les lycées. On va faire de la communication. Malgré tout, il y a beaucoup d'organismes. Ouais. On est en France, on a beaucoup de formalisme, d'administratif à n'en plus finir. Ça peut décourager. Hein. Alors Anne-Sophie ne s'est pas découragée parce qu'elle a une grande ténacité là-dessus. Il y a des gens à qui ça peut faire peur, mais on a clairement un problème d'identification de porte d'entrée sur lequel on travaille.
Ça prend déjà beaucoup d'énergie, c'est-à-dire à décrypter l'info, à comprendre qui fait quoi. Je pense que Magali, elle va pouvoir aussi nous en parler parce que je sais qu'elle bosse depuis des années toute seule en plus à chaque fois et elle est sa propre force. Mais c'est vrai qu'on se dit que il y a un vrai temps à passer là-dessus, même s'il y a de l'accompagnement. Anne-Sophie nous expliquait qu'il y a des informations à aller chercher à côté et il faut pouvoir ensuite tout regrouper. Et ce n'est pas évident non plus. Donc moi, sur la liberté d'entreprendre, je me pose des vraies questions là-dessus.
Une dernière question avant de redonner la parole à Anne-Sophie. Combien le pourcentage de projets qui aboutit entre les gens qui te sollicitent au début, sur 100 personnes qui viennent te solliciter, il y en a combien qui ont la chance, comme Anne-Sophie, d'aller au bout ?
Alors en fait, on a un niveau de... on filtre. Il y a un niveau de filtre parce que j'ai dit que le programme était subventionné, donc c'est de l'argent public. Donc il faut faire très attention actuellement à la dépense de l'argent public et c'est très important pour nous. Donc on a des filtres sur une personne qui va juste pousser la porte pour venir voir comment ça se passe, par exemple, dans une réunion d'information. Eh bien, si je prends une réunion d'information avec 10 personnes, on sait que 5 ne vont pas donner suite. C'est-à-dire que la réunion d'info déjà suffit à donner suffisamment d'informations aux gens pour dire... C'est pas pour moi, je vais pas aller là.
Ouais.
D'accord. Sur les 5, on a un entretien individuel où on va décortiquer un petit peu plus. Et sur ces 5, il y en a 2 qu'on va accompagner. Et sur ces 2, très majoritairement, il y a une création. Très majoritairement.
Okay.
Donc en fait, on est sur 10 personnes qui vont venir nous voir, on va en accompagner 2 jusqu'au bout.
C'est un peu Koh-Lanta. Hein. Je suis désolée, mais c'est... Non, mais c'est vrai, c'est l'épreuve du feu à chaque fois. C'est-à-dire que sur les 10 personnes, on sait pertinemment que voilà, ça peut décourager. Ça... Mais j'aime bien ce témoignage et parce que ça permet aussi, cette émission, elle est hyper utile à ce niveau-là. Parce que déjà, on a des interlocuteurs qu'on ne connaissait pas forcément et que les auditeurs vont pouvoir peut-être se saisir de ces infos-là. Mais ça repose un cadre quand même parce que entreprendre, vouloir entreprendre, c'est bien. Mais après, il y a des réalités auxquelles il faut se confronter. Et ça peut aussi expliquer le paysage local aujourd'hui.
Alors pourquoi la maison de la noisette, pourquoi ce projet et qu'est-ce que vous en diriez aujourd'hui? Parlez-nous un petit peu maintenant d'entreprise.
Alors pourquoi la maison de la noisette? Déjà quand on... Alors moi j'ai cherché à reprendre une entreprise et non pas à créer une entreprise et j'ai toujours travaillé avec des fournisseurs locaux et régionaux alimentaires. Et c'était important pour moi d'avoir ce savoir-faire et de mettre en avant la culture locale. Venant du Lot-et-Garonne, la maison de la noisette, c'était quand même une super opportunité pour moi. Et parce qu'il y a le côté touristique, puisqu'on met en avant la noisette et on explique aux gens en fait, comment ça fonctionne, la noisette dans le Lot-et-Garonne. Et parce qu'il y a le côté transformation et création de produits. Donc ça, c'est aussi chouette de pouvoir travailler à un produit brut et de pouvoir le sublimer pour qu'après d'autres personnes, comme des chefs ou comme vous autour de la table, pourraient les sublimer dans votre table au quotidien.
Donc, vous nous avez apporté des dégustations
Bien sûr, ils sont dans mon sac.
Ah. Et je n'osais pas poser la question.
Ouais, mais là, ça m'a donné l'eau à la bouche d'un seul coup.
Mais je vous invite à venir à la maison de la noisette directement.
C'est dommage avec parce qu'on plaisir. Avait une déloc, on aurait croqué de la noisette, on l'aurait fait entendre comme ça au micro.
La prochaine fois, tu me donnes 100% de l'information, Stéphane, et on va directement à la source.
Bon, en tout cas, j'ai échangé avec beaucoup d'entreprises. J'ai dû lire une quarantaine de dossiers avant de vraiment m'appuyer sur la maison de la noisette parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, à un moment, on a arrêté les négociations. En fait, il y avait des choses qui faisaient que ça n'allait pas, puis ça a pu reprendre derrière. Mais c'est en échangeant avec toutes ces entreprises qu'on se rend compte aussi de tout ce qu'il y a en France, de tous les gens qui ont des entreprises à céder et qui ne trouvent personne, soit parce qu'effectivement, ils n'ont pas été accompagnés, puisqu'il y a aussi de l'accompagnement des cédants, soit parce que les entreprises ne sont pas forcément viables aussi hein, derrière, donc il y a aussi des choix à faire qui ne sont pas faciles. Mais en tout cas, tout ce microcosme de la reprise d'entreprise, c'est passionnant, parce que c'est vraiment des rencontres humaines à chaque fois. Et ce n'est pas que reprendre un savoir-faire, c'est reprendre des collaborateurs, c'est reprendre des clients, reprendre des fournisseurs, reprendre des touristes en fait, qui vont aussi venir à la maison de la noisette, et c'était vraiment ça qui m'animait.
Est-ce que vous pensez qu'en tant que femme, ça a été plus compliqué, ça a été différent par rapport à ce projet ?
Alors oui, je pense qu'il y a des choses qui font que, en tant que femme, on a des freins. On parlait tout à l'heure des banques. Moi, j'ai quand même sollicité 4 ou 5 banques. J'ai eu un accord d'une banque et ma conseillère est une femme. Je pense qu'il y a beaucoup de formalisme dans la banque et qu'effectivement, il faut cocher plein de cases. Mais je pense aussi que le conseiller fait beaucoup et que si le conseiller croit au projet, il va pouvoir le pousser, il va pouvoir faire en sorte que les cases qui sont un peu trop à droite ou un peu trop à gauche, finalement, vont pouvoir cadrer. Et le truc qui m'a le plus choquée dans ma reprise d'entreprise, c'est quand même un conseiller bancaire qui a demandé si mon conjoint allait se porter caution pour ma reprise d'entreprise.
1972, bonjour.
Vous lui avez dit que vous aviez le droit d'ouvrir un compte en banque aussi. Il fallait en arriver là.
Mais moi, ça m'énerve. Franchement, les banquiers, désolé, mais j'ai du mal. Hein. Parce que, en fin de compte, j'ai l'impression qu'on freine la croissance, on freine aujourd'hui. On sait qu'on est dans une période qui n'est pas très facile avec l'inflation, etc. Ok, mais si on empêche les gens de se lancer, il n'y a rien qui va se créer, quoi. Et puis voilà, on a du travail, on a du chemin à faire comme c'est quand même en France à ce niveau-là.
Après, je peux vous rassurer, Anne-Sophie, hein, quand je fais un prêt bancaire pour l'entreprise, il faut que ma femme signe aussi. Hein. Et mon conseiller bancaire me dit... Monsieur Thomas, ça serait bien que votre épouse signe également, parce qu'elle est caution solidaire pareil.
Oui, voilà, parce que...
Bon, ouais. Ben, voilà.
Ouais, non, mais ça, d'accord. Mais si tu veux, tout à l'heure, l'exemple de dire « Attends, elle est mère célibataire et tout, machin. »
Oui, enfin, ça, par contre, c'est très choquant.
Bon, ben, on a quand même... Et je trouve que cette partie, tu vois, moi, elle m'a inspirée. J'ai même envie de continuer de faire du débat, mais c'est pas le problème.
Moi, j'ai une dernière question quand même. Est-ce que, en tant que... On l'a pas évoqué. En tant que chef d'entreprise, est-ce que vous pensez aujourd'hui amener un regard différent et un management différent au sein de l'entreprise ? que vous avez repris. Donc vous aviez, il y avait un avant et il y a un présent aujourd'hui avec vous. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir modifié, fait changer les choses et apporté une touche différente?
En fait, je me suis posé beaucoup de questions quand on m'a proposé de venir participer à cette émission.
Sur Radio Bulle, quand même. Attendez, votre parole, là, ça y est, ça part dans les nuages. Hein.
Et en fait, je pense que le fait de reprendre cette entreprise, je suis plus moi que ce que j'ai pu montrer dans mes précédentes expériences professionnelles. C'est-à-dire que je pense qu'avant, j'ai toujours essayé d'être un peu homme dans ma façon d'agir, en fait, pour pouvoir me faire respecter ou pour pouvoir montrer que j'étais forte, que j'étais rigoureuse, tenace, assidue, que je faisais des efforts. Et en fait, je pense que le fait que ce soit ma propre entreprise, ça me permet plus de me libérer et effectivement de mettre ma patte, alors bonne ou mauvaise, hein, parce qu'on ne fait pas toujours des bons choix, mais en tout cas, que ça me permet d'avancer en tant que moi et plus en tant que ce qu'on attend de moi.
C'est bien ça.
Super.
Ouais, c'est beau, hein.
Je suis content d'avoir posé la question, finalement.
Bah ouais, elle était super, ta question. Mais en plus, c'est plus une question de personnalité que d'être une femme. En fin de compte, c'est juste de s'affirmer.
Tout à fait, c'est ça. Et puis après, je pense qu'il y a des métiers qui sont plutôt masculins, des métiers qui sont plutôt féminins dans l'histoire du monde. Mais nous, par exemple, on recrute pas mal sur le tourisme. Dans le tourisme, on n'a que des femmes. Mmh. Et finalement, c'est de la discrimination inversée. Enfin, pourquoi les hommes ne viennent pas faire du tourisme? C'est ouais. Chouette, c'est super. On ne porte pas de charges lourdes, c'est génial.
Moi, j'aime bien cette émission parce que je trouve qu'elle est pas, tu vois, elle est pas clivante. On dit pas, ouais, il y a les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Je trouve qu'elle est très harmonieuse.
Et d'ailleurs, nous faisons un tandem ouais. Qui fonctionne bien.
Ouais, on se demande des fois c'est qui le mec dans le tandem et tout. Non, c'est bon, je rigole. Allez, je t'embête. Tu n'oublies pas, Jean-Luc.
Alors, ça reste quand même un peu ta radio, alors je vais quand même me taire. Mais on reparlera de ça une fois qu'on aura envoyé le top de la musique.
Le top de la musique, c'est maintenant sur Radio Bulle. Et on se retrouve dans un instant avec Jean-Luc Thomas et son émission. Et c'est les Midis de l'Emploi.
Radio Bulle. Radio Bulle. Rythme la jeunesse sur 93.6.